Il est 21h01 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'Extérieur Nuit. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi and I got my blackjack gum here and I got that feeling. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down out there.
Oui, non, non, vous vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
Don't ever feed him after midnight.
She's alive! Alive!
Ready to party!
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
I'm a man! Well, nobody's perfect.
Qu'est-ce que c'est, c'est pas quoi faire!
Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne.
Vers l'infini et au-delà!
Ce soir, Rita nous revient du festival d'Annecy dédié au cinéma d'animation quand au même moment sort Vice Versa 2 sur nos écrans, suite du mythique film des studios Disney-Pixar mettant en image la théorie des émotions. Et si nous devions nous y fier, le retour de Jeff Nichols avec The Bike Riders nous mettra-t-il en joie? Qui de tristesse, de peur ou du dégoût prendra le pas devant Maria de Jessica Palu, de biopic consacré à Maria Schneider sur le tournage culte et traumatique du Dernier Tango à Paris, et le nouveau drame bourgeois d'Olivier Assayas, son huis clos hors du temps, c'est le titre, sur le confinement sera-t-il en matière à nous mettre en colère? Dans Vice Versa 2, l'héroïne devenue adolescente découvre une palette de nouvelles émotions, parmi lesquelles l'anxiété et l'embarras qui caractérisaient bien le Kaiser de la mode au centre de la série Becoming Karl Lagerfeld. Garfield. Enfin, il nous restera l'ennui qu'on préférait vous éviter ce soir et aussi la nostalgie car Extérieur Nuit conclura déjà sa saison mercredi prochain. Extérieur Nuit, c'est parti. Toujours des prononciations un peu hasardeuses. Yuri, le box-office de la semaine, qu'est-ce qu'il nous donne?
Il donne en fait un peu toujours la même chose depuis plusieurs semaines. Hein. Les gens
on s'ennuie, vont... ça que tu nous dis.
Oui, les gens vont quand même globalement voir le petit truc en plus d'Artus qui passe le cap des 7 millions d'entrées, qui fait donc un total de 7 300 000 entrées, ce qui le place, attention, à la 81e place all-time du box-office français. Donc c'est parmi les 100 films que les gens ont le plus vu de toute l'histoire du cinéma en France. Voilà, c'est en nombre d'entrées, hein, bien sûr. Donc c'est assez étonnant. Enfin, c'est un record et j'imagine qu'il va aller taper sans trop de difficultés les 10 millions d'entrées vu comment c'est parti. Il ne perd que 13% sur cette semaine. Sur cette semaine, moi aussi, je fais des AVC en direct. Bad Boys Ride or Die, qui fait 258 000 entrées et qui cumule 638 000 entrées. Ensuite, La Petite Vadrouille, qui se dépatouille pas trop mal, avec 117 000 entrées en deuxième semaine, pour un total à 277 000. Et La Planète des Singes s'accroche, est toujours là, qui va peut-être taper les 2 500 000, on y croit. Paraît-il en plus que c'est pas si mal, mais on n'en a pas parlé dans cette émission. Parfois, on a comme ça des blind spots qu'on ne couvre pas.
Est-ce qu'il faudrait faire une séance de rattrapage ? Peut-être.
Peut-être.
Laurent, le 14h de Paris, les films qui sont sortis aujourd'hui.
Ça démarre très fort hein, par Pixar, Vice Versa 2. Le film, déjà, le premier avait déjà fait un grand succès. Il fait 4564 entrées pour 24 copies, donc une moyenne de 183, ce qui est, je pense, un des plus gros démarrages de l'année, très honnêtement. Une des moyennes par copie. Après, bon, c'est mercredi, le jour des enfants, mais enfin quand même. En deuxième place, The Bike Riders, dont on vous parle aussi ce soir, qui fait 892 entrées pour 21 copies, donc une moyenne assez honnête de 42. Enfin, en troisième place, Maria, dont on vous parle également aujourd'hui, on est très chaud, qui fait 555 entrées pour 16 copies, donc une moyenne assez honorable de 35, même le quatrième, on vous en parle, hors du temps, le dernier film de Olivier Assayas qui fait 381 entrées pour 10 copies.
C'est donc comme gagner au loto là presque.
Là vraiment c'est 4 sur 4.
Et le numéro bonus,
notre petit perdant de la semaine, un film qui s'appelle Natura, qui a l'air d'être assez obscur, j'ai pas de jeu de mots, je suis désolé, qui a l'air assez obscur sur
une dame. Il n'est pas de Natura à le voir.
Et ben voilà, tellement pas de nature à le voir parce qu'il n'y a que deux personnes qui y sont allées pour une copie, donc une moyenne de deux. Ça a l'air de raconter l'histoire d'une dame après la Seconde Guerre mondiale, chassée par des Américains, une Allemande, qui se réfugie dans la forêt. Ça a pas l'air fun. Peut-être qu'il faut aller le voir quand même.
Bah écoute, tu nous l'as très bien vendu en tout cas. Le premier film... Ah non, pas du tout. Pas du tout le premier film. D'abord, on va écouter Rita nous parler, nous raconter son expérience au festival d'Annecy, dédié donc au cinéma d'animation dont elle a... dans lequel elle a passé une semaine.
Bonjour Extérieur Nuit, bonsoir Radio Campus Paris, je vous retrouve en direct depuis Annecy, enfin pas exactement en direct mais presque. Je suis ravie comme chaque année d'aller à ce festival qui est en fait un cocon de bienveillance et de bonheur. Cette année en plus avec un record de participation, une ambiance comme d'habitude de malade et des avions de papier toujours réussis. Cette petite tradition où en fait les participants et les festivaliers et festivalières jettent des avions de papier vers l'écran et quand ils arrivent à toucher l'écran, toute la salle applaudit énormément. Je précise tout ceci avant le démarrage des films évidemment. Donc dans cette ambiance complètement dingue, cette année le pays à l'honneur était le Portugal. On nous a déjà annoncé que l'année prochaine ce serait la Hongrie. De ce fait, il y avait beaucoup de programmation liée au Portugal qui était très intéressante. Cette année, le cristal du court-métrage est revenu à Percebes, je crois qu'on le prononce comme ça, qui est un film portugo-français, franco-portugais, de Alexandra Ramirez et Laura Gonçalves. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir, de même que pour le cristal du long-métrage que je suis extrêmement déçue d'avoir raté, qui s'appelle Memoir of a Snail de Adam Elliott. C'est un film australien qui a l'air absolument effrayant et sublime, avec une ambiance un peu glauque, mais dans le bon sens. J'ai très hâte de le rattraper en salle à sa sortie. Pour autant, j'ai pu voir le prix du public qui est aussi le prix du public, qui est aussi le prix de la Fondation Gant à la diffusion et le prix de la musique originale, à savoir Flow, un film franco-letton de Gintz Zilbalodis. J'espère que je prononce ça correctement. Alors c'est un film que, avant de le voir, il avait déjà eu des critiques complètement dingues parce qu'il était projeté à Cannes également en séance spéciale. Je ne l'avais pas vu à ce moment-là et au moment où je l'ai vu, c'était le dernier jour du festival. J'avais très peu dormi, j'étais un peu endormie, je vais pas le mentir et je le précise parce que j'ai vu le film dans ces conditions-là alors que les autres personnes qui l'ont vu et adoré visiblement l'ont vu dans de bien meilleures conditions je pense. Alors il se trouve que j'ai trouvé ce film ok, je ne comprends pas vraiment les critiques dithyrambiques à son sujet, on suit donc un chat. C'est un film sans dialogue, mais vraiment sans aucun dialogue, on a juste des animaux qui parlent. C'est une espèce d'arche de Noé où en fait on voit suivre un chat et d'autres animaux à travers une espèce d'aventure sur un bateau, puis sur... à travers plein de péripéties, parce qu'il y a une énorme montée des eaux, une espèce de raz-de-marée. On n'a aucun contexte sur ce qui se passe, on ne comprend rien étant donné qu'on est dans la peau du chat. D'ailleurs, c'est un film qui ressemble à un jeu vidéo. Alors, je ne suis pas une grande amatrice de jeux vidéo, j'ai jamais joué à grand-chose à part Mario Kart, donc je ne vais pas m'aventurer à faire des comparaisons. Mais pour le coup, toutes les personnes qui m'en ont parlé m'ont dit que c'était exactement comme un certain jeu vidéo, dont le nom m'échappe actuellement. Mais on sent qu'on... Des fois, on est carrément sur des plans point of view, donc vraiment comme si on était le chat en train d'avancer dans la forêt. Puis même l'animation donne l'impression de voir des visuels de PS2 en fait, donc assez presque flou. Flou, c'est un très bon nom, non seulement parce que ça suit le cours de l'eau littéralement, mais aussi parce que on a un flux d'images très particulier. Alors j'ai adoré l'animation, c'est quelque chose que j'avais jamais vu auparavant, j'ai adoré me plonger dedans. Pour autant, l'histoire, qui est très simple, je trouve aurait fait un superbe court-métrage peut-être, ou alors un long-métrage mais avec un peu plus d'enjeux. C'est pas tant les enjeux, le problème en vérité, c'est surtout le fait qu'il n'y ait pas de dialogue et qu'on soit toujours du point de vue des animaux fait qu'on est à hauteur vraiment bienveillante et drôle, et qu'on est sur des émotions vraiment primaires et primales. J'aime beaucoup ça, mais ça m'a manqué de substance pour que je puisse véritablement entrer dedans. Donc je ne sais pas trop pourquoi tous ces retours dithyrambiques, mais tant mieux pour le film, et puis visiblement ça s'est prouvé puisque... Il a obtenu tous ces prix-là et c'est un film qui va être distribué par Haut et Court et je lui souhaite une très belle carrière en salle pour autant, par ailleurs. Par contre, à part le box-office, enfin plutôt... À part les films qui ont eu des prix, j'ai aussi vu de notables plusieurs conférences très intéressantes, notamment une de Wes Anderson qui était l'invité d'honneur du festival cette année, qui nous a raconté une superbe anecdote sur le fait que le velours, la matière velours, était l'une des choses les plus importantes de sa vie, à ce point arrivé dans sa vie. Il a expliqué que la plupart de ses personnages étaient effectivement habillés avec une espèce de ressemblance avec comment il pourrait lui s'habiller, mais que le personnage en particulier qui lui ressemblait le plus, c'est Mr. Fox de Fantastic Mr. Fox, et évidemment, on le comprend. Par ailleurs, toujours dans l'univers des vêtements, on va dire, il y a Jean-Paul Gaultier qui était aussi présent dans une conférence avec le studio N-Wave d'animation pour en fait nous présenter un projet qu'on ne va pas voir avant 2027, donc on est sur du early work in progress pour faire dans l'anglicisme, donc très tôt dans l'avancement du projet. Il y a beaucoup de projections comme ça à Annecy où en fait des cinéastes ou des artistes viennent nous présenter où est-ce qu'ils en sont dans leur projet, même si c'est embryonnaire en fait. Et là il nous a montré des images d'un film d'animation pour lequel il sera directeur artistique, donc il y avait aussi les personnes qui ont fait le scénario et la réalisation, et en fait il nous montrait des images en nous expliquant de quoi allait parler le film. Spoiler alert, donc alerte divulgachage, Rossi de Palma sera dedans, ce qui est pas très surprenant vu leur lien à tous les deux. D'ailleurs c'est elle qui a fait rencontrer les auteurs et Jean-Paul Gaultier. En tout cas, ça avait l'air vraiment super intéressant et ça avait l'air d'utiliser l'animation 2D et 3D de manière assez pertinente vu le monde comment le monde de l'art et de la mode se rejoignent. En tout cas, moi, ça m'a donné extrêmement envie. Je ne sais pas comment je vais attendre 2027. Et dans les conférences, on avait aussi le Next on Netflix, donc ce qui va arriver bientôt sur la plateforme Netflix en termes d'animation. C'est un rendez-vous récurrent de chaque année, en fait, à Annecy. Et cette année, dans les choses notables, on avait une série sur la mythologie nordique par Zack Snyder qui était présent pour la présenter. J'ai pas trouvé ça très intéressant ou alléchant, mais les gens avaient l'air très contents. Par ailleurs, il y avait une présentation de Wallace et Gromit pour leur prochain film qui va sortir en fin d'année ou début d'année prochaine, ils avaient pas l'air très sûrs. Et ça, ça avait l'air génial. C'est un film de vengeance avec tous les personnages qu'on adore de Wallace et Gromit. Ils nous ont montré quelques images et puis ils nous ont montré des behind the scenes, donc de comment ils faisaient l'animation en stop motion. Ça a l'air complètement dingue. Et puis il y avait l'invité préféré de tous les Français, à savoir Alain Chabat, qui vraiment, quand il est entré dans la salle, c'était ambiance superstar, rockstar. On aurait dit que Mick Jagger était arrivé, tout le monde s'est levé à hurler, je peux comprendre, qui présentait donc sa prochaine série Astérix et Obélix qui sera en animation. Et alors d'ailleurs, en termes d'animation, j'ai trouvé ça hyper innovant parce que, enfin en tout cas très intéressant, leur manière de montrer de l'animation avec un lien à la BD, avec donc à chaque fois quelqu'un se fait taper, on a les sons de la BD qui apparaissent, c'est très bizarre à dire comme ça, ça fait très synesthésique, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et ça avait l'air vraiment génial, donc moi j'étais ravie de découvrir ces images-là, et ça m'a donné envie, et je dis ça en étant une personne qui est pas très fan de Astérix et Obélix. Enfin, c'est pas tant que je suis pas fan, c'est que j'ai pas grandi avec, mais là j'ai vraiment eu envie, ça avait l'air très drôle, et les personnages étaient vraiment, le teaser était rapide, mais ça donnait extrêmement envie. Et donc Alain Chabat reprend la voix d'Astérix, et cette fois-ci c'est Gilles Lelouch qui reprend la voix de Obélix. J'ai extrêmement hâte de voir ça. Ça, c'était pour les conférences. Du côté des longs métrages, j'ai vu du mauvais cette année, alors que d'habitude j'arrive à me faire une sélection qui fait que je vois beaucoup de choses très belles. Mais vu qu'on ne parle pas de ce qui n'est pas bon, on va se concentrer sur le positif plutôt. J'ai découvert le film Sauvage de Claude Barras, qui est le réalisateur de Ma vie de courgette. Je n'ai jamais vu Ma vie de courgette, et alors maintenant j'ai tellement envie. Parce que Sauvage, qui est donc, se passe dans une forêt. Avec, j'ai presque pas envie de vous raconter, mais en gros, il y a une espèce, c'est une fable écologique, comme 90% des films cette année à Annecy. Il y a clairement une thématique qui commence à venir de manière très souvent. Mais donc, c'est une fable écologique sur la lutte et sur qui en fait engage les spectateurs et spectatrices à l'action. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a même un carton qui nous invite à aller sur le site du film pour nous engager politiquement dans la lutte pour l'écologie en fait. Donc c'était vraiment très émouvant, j'ai adoré ce film, je suis très déçue qu'il n'ait rien eu au palmarès. Bon, en même temps, son dernier film a eu le Cristal d'Or, donc je pense qu'ils ont un peu essayé de faire en sorte que d'autres films puissent en profiter, et pas seulement les films de Claude Barras, mais je trouve que c'était clairement mérité vu les autres films de la compétition que j'ai pu voir, et vu l'engouement pour Flo, je trouvais que Sauvage était un bien meilleur film sur l'angoisse écologique et la lutte, et comment est-ce que ça peut avoir une conséquence sur la faune, la flore, mais aussi les peuples natifs de certains pays. J'ai été hyper émue, franchement, j'ai adoré voir ce film, et je vous le recommande, il va sortir dans l'année, et j'espère que ça sera une grande réussite. Enfin, j'ai pu découvrir des courts-métrages à l'occasion de beaucoup de choses. Déjà, il y avait les courts-métrages en hommage à l'animation portugaise, puisque c'était le pays invité. Puis on avait aussi les courts-métrages pour, par exemple, les 100 ans du studio de la Warner. Donc en ce moment, on entend beaucoup les 100 ans d'à peu près tous les studios, ce qui est logique parce qu'ils ont tous été créés à peu près au même moment, dans les années 20, quoi. Mais donc, pour les 100 ans de la Warner, ils nous ont fait une espèce de pêle-mêle de courts-métrages pendant 1h30, on en a vu 10. Alors, le problème de faire des courts-métrages qui montrent l'évolution de ton studio, c'est que si ton studio a pris des décisions farfelues dans les années récentes, on voit tout de suite l'énorme différence entre le début et le plus récent. Parce que là, on nous a montré un court-métrage de 1924 où on a en fait Porgy le cochon qui se dispute avec Daffy Duck et qui en fait c'est un mélange entre prise de vue réelle et animation, et là on a vraiment un truc ultra original, ultra inventif, tellement drôle et bien écrit, qui date d'il y a littéralement 100 ans, vraiment d'une originalité monstrueuse. Et puis ensuite plus on avance, donc on a des trucs super sympas, on a des Tom and Jerry, on a des Looney Tunes, on a des dessins animés vraiment iconiques de l'histoire de la Warner, et puis on arrive vers les années 90, ça devient toujours rigolo mais l'animation se fatigue un petit peu, pour le dire gentiment. Puis là, on arrive aux années 2010-2020 et j'avoue que je ne comprenais plus. C'est OK Boomeuse qui parle du haut de ses 23 ans, j'en ai conscience. Mais j'ai vraiment, vraiment du mal avec cette nouvelle manière de faire l'animation. Donc on parle là de... J'ai dit court-métrage, mais en vérité, c'est plutôt des espèces de pastiches faites pour la télé, en fait. C'est les choses qu'on voit à la télévision, sur les chaînes comme le Cartoon Network et ce genre de choses, je sais même plus où Warner distribue ses films pour la télévision aujourd'hui. En tout cas, voilà, j'étais assez déçue de la fin, mais le début était tellement génial et ça m'a donné envie de me replonger dans ces courts-métrages-là, de la même manière que j'ai ensuite vu les films en compétition faits pour la télévision. Donc là, pareil, il y avait par exemple le premier épisode de La Petite Casbah, qui est une série pour France Télévisions qui va être disponible à la rentrée. Merveilleuse, j'ai adoré, ça se passe à Alger, on sent que c'est la fin de la colonisation française, on n'est pas exactement sûr de quand est-ce que ça se passe, en tout cas pas dans le premier épisode, mais c'est hyper hyper mature et intéressant, c'est à hauteur d'enfant quand même, mais il y a vraiment volonté de leur parler, de faire de la pédagogie, j'ai trouvé ça génial. J'ai aussi pu découvrir un film qui est disponible sur Apple TV Plus dès maintenant, en plus je sais pas trop comment il s'est retrouvé en compétition, mais un nouvel épisode de Peanuts, donc les fameuses aventures de Snoopy, Charlie Brown et tous ces personnages là que j'adore. Donc j'étais ravie de pouvoir voir ça. Voilà, en tout cas Annecy, comme chaque année, un réel plaisir de m'y rendre, un réel plaisir de découvrir tout ce qu'il y a à voir là-bas, surtout que je ne me concentre pas exactement sur l'animation le reste de l'année, donc c'est vraiment génial de voir ça là-bas, et de pouvoir en faire un petit spotlight pendant Extérieur Nuit. J'espère que ça vous a plu, et je rends l'antenne à Elisabeth et à tout le monde.
Merci Rita, et on vous encourage à aller au Festival d'Annecy parce qu'il est ouvert au public. On commence tout de suite les films de la semaine avec The Bike Riders de Jeff Nichols, on écoute la bande-annonce.
Kathy, why don't you talk to me about when you first met the guys?
From the beginning? It was a golden age for motorcycles.
Somebody told me you're the guy I need to talk to. You're the man in charge.
I built this club out of nothing.
I never felt so out of place in all my life. That's when I saw him for the first time.
I'm Benny. Yuri, tu es donc allé découvrir The Bike Riders de Jeff Nichols, qu'on n'avait pas vu depuis Loving, ça
depuis
faisait un petit
ans,
moment,
ouais.
Voilà, depuis 8 ans, mais on rappelle que c'est le réalisateur de Midnight Special, de Tech Shelter, de Shotgun Stories.
Et de Mud.
Et de Mud, évidemment.
Qui est probablement son film le plus connu. C'est un artisan, on va dire, du cinéma d'auteur américain bouseux un peu, puisque c'est quand même quelqu'un qui va souvent filmer des paysages dans son Arkansas natal. Et là, encore une fois, il va filmer un gang de bikers dans le Midwest. Le film est inspiré d'un livre de reportages photo, en fait, qui a été écrit et photographié par Danny Lyon sur, en fait, les bikers dans les années 60. Et il va suivre un groupe de bikers incarné par Tom Hardy et Austin Butler notamment, et surtout Jodie Comer qui joue la femme de Austin Butler, et je vais y revenir, pour voir en fait un peu la naissance de ce phénomène, son apogée et puis sa chute. Voilà, donc il y a une espèce de trajectoire un peu comme ça, assez classique, assez tragique, mais très très belle. Moi, c'est un film que j'ai adoré en fait, parce que c'est complètement un film fait pour moi, ce genre de cinéma américain un peu du milieu, avec à la fois une vraie envie de filmer des paysages et en même temps des acteurs qui incarnent leurs personnages d'une manière assez dingue, assez très viscérale, très très rugueuse aussi. Je trouve qu'on retrouve comme ça des vraies tronches de comédiens, Michael Shannon et Norman Reedus qui sont dedans, qui vraiment s'éclatent à jouer des espèces de bikers hardcore.
C'est lui qui a révélé Michael Shannon en plus.
Ouais, vraiment des comme ça, des bikers un peu bouseux, un peu hardcore, et avec une sorte de vrai, je trouve, mélancolie sur ce phénomène, sans le juger, sans même parler de ses inclinaisons politiques. On comprend qu'ils n'aiment pas beaucoup les gauchistes, mais il y a un côté comme ça où je trouve que ça rappelle un peu toutes les histoires autour de l'âge d'or de la piraterie, quoi, de gens qui avaient comme ça un moment qui avaient un nouveau moyen de locomotion qui était le navire ou la moto, et qui ont une sorte de
non mais au XVIIe siècle le navire c'était déjà très
oui,
très,
mais
très, très,
se,
très très vieux,
qui se les approprie qui se les approprie d'une manière et qui vont en fait vont les utiliser d'une nouvelle manière et qui vont en faire un vecteur de liberté. Et la moto est plus vieille que les années 60 par ailleurs, hein, mais je trouve qu'il y a comme ça une sorte de parallèle assez beau que le film fait assez consciemment entre justement voilà, une espèce d'idéal libertaire qui va pourrir de l'intérieur et qui va finalement se disloquer et finalement ne rester qu'une idée puisque les luttes de pouvoir intestine propres en fait ces tribus de bikers vont avoir raison de leur idéal. Et le tout est raconté par Jodie Comer, le personnage de Jodie Comer qui est la femme d'Austin Butler, de Benny, et je trouve que c'est un très très beau choix parce que justement ça donne un peu un regard extérieur à tout ça, ça donne un contre-pied et ça donne un personnage féminin extrêmement intéressant dans un monde de mecs quoi. C'est vraiment des gars, il y a un côté un peu homo-érotique en plus entre Tom Hardy et Austin Butler, voilà, on comprend qu'il n'y a pas que un amour pseudo-filial, il y a quand même aussi une sorte d'attirance qu'ils peuvent pas vraiment s'avouer, donc les mecs ils sont à un stade où ils se roulent dans la boue pour cacher le fait qu'ils sont homo, mais et le tout est donc raconté par un personnage féminin très très intéressant, très fort, parce que toujours un peu en retrait en même temps avec une vraie lucidité, une vraie gouaille. Jeff Nichols, il arrive à écrire des dialogues je trouve toujours très percutants, très très intéressants, avec une vraie musicalité dans cet accent du Midwest qui est pas toujours
très bien fait par Jodie Comer, qui est anglaise et qui fait ce qu'elle peut, mais
oui,
c'est pas
mais moi je trouve que j'y crois davantage que dans d'autres films ou des acteurs anglais ou des américains. Ouais, mais là j'ai complètement acheté, je l'ai acheté aussi par je trouve il y a une vraie énergie dans le film qui est portée par la BO, qui est portée par la musique, qui est portée par aussi parfois des scènes vraiment très marrantes et un côté un peu scorsésien de voilà, ça tout ça c'est un moment pété la gueule, mais tout en évitant de faire du Scorsese, parce que on n'est pas Scorsese qui veut, je pense que c'est pas son projet. Voilà, moi j'ai trouvé qu'il y avait un truc très doux amer. Moi de toute façon j'adore les films sur les mondes qui s'effondrent et sur globalement les illusions qui n'arrivent pas à perdurer, et ce film est complètement là-dedans. Il est porté par une mise en scène que je trouve très maîtrisée, très intelligente, et avec une maestria technique et de jeu que j'ai pas vu depuis longtemps. Donc voilà, moi j'aimerais vraiment que ce film marche. Je suis un peu lucide, je pense qu'il va se fracasser, mais comme l'idéal qui est porté par ces personnages, mais voilà, je suis très très heureux que ce film soit réussi.
Est-ce que ça veut dire que Jeff Nichols va redisparaître 8 ans? On n'espère pas. Laurent, tu es un peu moins convaincu et pourtant tu es le biker d'entre nous.
Ouais, c'est moi, je suis un peu le Austin Butler de cette émission.
Bien sûr.
C'est dire. Je suis un peu plus chafouin, je dirais, parce que en fait, j'entends ce que tu dis, je pense que t'as pas tort, notamment sur le jeu des acteurs qui sont quand même vraiment très bons. Il y a un travail de mise en scène très solide. En fait, je trouve que l'intérêt principal du film réside dans sa sociologie, en fait, dans ce qu'il essaye de raconter de l'Amérique, de qui étaient en fait ces gens qui ont commencé à construire ces groupes de bikers un peu, qui étaient juste des mecs un peu paumés qui s'emmerdaient, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un truc, voilà, comme ça. Et comment ce truc-là a été phagocyté par le mouvement hippie et plus précisément le mouvement des vétérans américains, ouais, qui reviennent et qui, voilà, qui finissent par détruire un peu ce mouvement qui pourrit de l'intérieur à cause de ça. Et en fait, on voit un peu en creux les effets de la guerre sur la société. Il y a des choses vraiment très intéressantes, en fait, de ce point de vue-là. Et c'est porté par des personnages qui sont crédibles, solides, assez touchants. Et plutôt bien fait. Je trouve que, en fait, malheureusement, moi j'en demande un peu plus, c'est-à-dire que je trouve que toute l'histoire en fait de ces gens-là est quand même très, il y a un côté très chronique, il y a un côté un peu théorique dans ce qu'ils cherchent à raconter aussi, c'est-à-dire que on voit bien que bon bah ces personnages, il leur arrive pas grand-chose, alors on parle un petit peu de leur vie, etc. Et pour faire vivre le film, on sent que l'intérêt il est vraiment en dehors de l'histoire proprement dite, de ce que nous fait le film. Et je trouve ça un peu dommage parce que c'est et ce serait une remarque très extrême, je trouve, parce que c'est vrai que le film est pas du tout raté et que le scénario est pas du tout pourri, mais c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant quand on se dit que pourrait y avoir du mieux s'il y avait eu un peu plus de boulot pour essayer
mais
de construire.
Je suis vraiment pas d'accord avec toi parce que je trouve que en fait il fait exactement ce qu'il a prévu de faire
il fait ce qu'il a prévu de faire, mais il se trompe, mais à mon sens il se trompe,
mais parce que moi l'aspect chronique, c'est justement ce que j'ai bien aimé. C'est ce que j'ai trouvé, justement, c'est ce qui m'a porté. Moi, tu m'aurais fait une espèce d'énième truc d'américain qui a des problèmes avec son papa. En fait,
ça aurait été un film français fait par des américains, non, ça aurait été de la merde. Mais c'est pas ça la question. C'est juste construire quelque chose qui se porterait un peu plus par lui-même plutôt que par, son propos sociologique, globalement.
Contenu dans le film. Le propos sociologique. Donc en fait t'as pas besoin de plus que ça, puisque le propos il est présent dans le film.
Mais s'il ne repose que là-dessus,
c'est
un film un peu théorique.
Exactement, c'est globalement ce que je dis, et je trouve ça dommage parce que je trouve qu'on gagne toujours à essayer de faire un film avec un vrai scénario plus fort qui se tient mieux. Ça veut pas dire que c'est nul.
Encore une fois, le scénario se tient, donc je trouve que ton argument est fallacieux.
Dans le sens où tu vois ce que je veux dire, une intrigue qui se tient bien. Je trouve que dans l'ensemble c'est quand même plutôt solide, c'est quand même plutôt intéressant, c'est pas du tout une catastrophe, mais voilà, il y a un petit arrière-goût de pas assez, quoi. Et c'est dommage, mais honnêtement, peut-être, je sais pas, j'ai pas vu tous les films qui sortaient cette semaine, mais ça reste un film assez intéressant à voir quand même.
Yuri, te rit au nez. Manon, toi aussi, tu trouves que ce Bike Riders est un petit peu théorique ? Pas suffisamment incarné, tu souris à Yuri, quand de Laurent ?
Non, en fait, je suis d'accord avec vous. En fait, je m'attendais à voir ce que toi, tu décris et ce que j'ai pas trop vu. Moi, je m'attendais à voir un peu à l'écran comme les grands romans américains qui dépeignent comme ça plusieurs années, voire plusieurs décennies, et qui parlent en fait bien plus de l'Amérique que de leur protagoniste. Et en fait, je trouve que, enfin voilà, moi j'avais envie de voir ça à l'écran, et je trouve que c'est pas ce que j'ai vu.
Tu reproches le film de ne pas d'être ce qu'il n'est pas.
Ouais. Non, mais en fait, j'ai pas trop réussi à voir justement derrière le côté qui raconte l'Amérique, qui raconte les 60s et tout. Et ça, ça m'a un peu manqué. J'ai beaucoup aimé le pas de côté qu'il a fait, en tout cas la tentative de voir toute cette histoire via Cathy. Parce que tout de suite, ses propos sont assez amers. Et en fait, du coup, je trouve que ça donne le ton. Et ce ton, comme tu disais, doux, amer, on sait que ça va mal se passer. Il idéalise pas du tout cette communauté-là. Et je trouve que c'est bien de se focaliser sur cette bascule et aussi de raconter comment les cultures à la marge, quand elles se popularisent un peu comme ça et qu'elles grossissent, tout ce qui peut en découler. Je trouve que c'est assez intéressant, que c'est un film de bikers aussi, mais en fait, ils ne roulent pas tant que ça. Ils sont quand même très souvent genre statiques, tu vois, ils posent
parce
et tout.
Parce qu'ils s'emmerdent la plupart du temps,
ça.
Quand même.
Et voilà, et j'aime bien que...
Ça coûte cher. Bref.
Ouais, en fait, ils parlent plus presque de leur posture que de... Enfin, je trouve ça assez intéressant, ce traitement. Et d'avoir ce regard féminin et cette mise à distance sur cette histoire qui est hyper virile, hyper viriliste, c'est assez intéressant. Que l'histoire d'amour, finalement, effectivement, comme tu disais, c'est plus celle qu'il y a entre Johnny et Benny que celle entre Cathy et Benny. Et de construire en fait tout ce film autour de est-ce qu'il va finir par chialer ou pas, enfin c'est un peu ça, j'ai l'impression que l'enjeu c'était ça, c'est est-ce qu'il va finir par verser sa larme. Moi ça j'ai trouvé ça marrant. Après je me demande justement si cette posture de voir cette histoire par les yeux de Cathy, c'est pas aussi une façon un peu paresseuse d'apposer le tampon female gaze sur une histoire très testostérone, parce qu'en fait elle est une sorte de témoin passif, elle raconte, mais je trouve qu'on sait pas grand chose d'elle, elle incarne pas grand chose. Et moi son côté acteur studio, j'avoue que ça m'a un peu... En fait, le film est hyper brut et elle a ce truc très fabriqué qui me sortait un peu... C'est une très bonne actrice, elle est très bonne et tout, mais moi...
Qu'on avait notamment vu dans... Un peu, quoi.
Killing Eve.
Sur Killing Eve, merci.
Ouais. Voilà, donc je... Enfin, toutes les intentions, je les aime bien, mais le résultat, je suis un peu mif-mof. Voilà.
Mi-fig. Mais c'est quoi, concombre, nous dirait Rita. Eh bien, écoutez, allez quand même voir The Bike Riders pour éviter qu'il se fracasse au box-office et qu'on ne revoie pas Jeff Nichols pendant 8 ans. Ce serait quand même bien triste. Le film qui n'est pas du tout en train de se fracasser au box-office, c'est lui qui fracasse le box-office. C'est Vice Versa 2, la suite de Vice Versa.
Riley, how was camp?
Well, let's stay up on it!
That was good.
She goes away for 3 days and all we get is good?
She goes away for 3 days and all we get is good?
Yeah, sounds right.
Ask the answers.
Back to the game.
Riley is officially a teenager now. You aren't packed yet?
I'm the worst!
Overreact much?
I barely touched it.
Let the professional handle this.
I'm too gross to go anywhere ever.
Valentin Vice Versa 2, c'est donc la suite de Vice Versa et l'héroïne est devenue... Elle est passée d'une enfant à une adolescente, alors évidemment, c'est compliqué, il y a plus d'émotions à gérer.
Ah bah oui, là clairement ils sont plus nombreux en studio, enfin de fait ça va
dans
pas se passer
tête.
Forcément comme ça, mais oui, bon en fait là, pour le pitcher rapidement le film, effectivement tu l'as résumé, c'est assez simple, on était dans le cerveau d'un enfant avec quelques émotions très primaires, avec des couleurs primaires, donc la joie, la tristesse, la peur, la colère, et puis là bah, on est dans le cerveau d'une adolescente, donc avec quelques nuances, et donc les couleurs primaires sont devenues bah, des mélanges de couleurs primaires, donc on a l'anxiété en orange, l'ennui en violet et ainsi de suite, je vous dévoile pas tout, mais voilà, on est globalement là-dedans. L'adolescente est donc en pleine puberté et donc il va se passer plein de choses dans son cerveau et donc plein de choses entre ses personnages d'émotions. Et en fait, je pense que présenter le film comme ça, ça permet quand même de comprendre à quel point c'était un peu du tout cuit en fait pour Pixar, dans le sens où le film est construit pour avoir une suite. Le 1, tu sens qu'il est construit pour avoir une suite, et donc en fait c'est très facile, ne serait-ce que d'un point de vue du code couleur. Je trouve que c'est assez représentatif de la chose, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il vous laissait à faire une fois que vous aviez des couleurs blanc, bleu, jaune, rouge, verte? Bah, en fait, il suffisait de les croiser, puis ça allait donner un certain nombre d'autres personnages, et c'est ce qui se passe dans le film. Il y a un certain nombre d'autres personnages avec tout un tas d'aspérités, tout un tas de trucs. Donc en fait, le film est calibré pour être une bonne suite, et donc il fonctionne bien parce qu'en fait l'univers est fait pour ça, tout est naturel dans l'enchaînement, dans les problématiques du personnage central, tout fonctionne bien. Après, le gros enjeu qu'il y avait derrière pour Pixar, c'est de réussir à construire un peu les coulisses, parce que du coup, de fait, c'est un peu un film de coulisses, puisque ce qui se passe avec le personnage central, l'héroïne Riley, n'est pas très intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est un peu ce qui se passe derrière avec les différentes émotions. Et là, en vrai, il y avait un peu, je trouve, la barre était assez haute par rapport au premier, parce que le premier avait quand même des trouvailles, un certain nombre de trucs qui, moi, m'avaient soufflé, la manière de représenter les souvenirs, l'oubli, et tout un tas de séquences qui étaient vraiment poignantes, qui étaient vraiment très, très créatives d'un point de vue visuel. Et là, il y avait vraiment un enjeu, et je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien, dans le sens où, bah, en fait, encore une fois, le film reste dans l'ombre du premier, parce qu'il s'inscrit dans un cadre qui existe déjà, qui est préexistant, mais ils arrivent à renouveler avec un certain nombre d'idées, un certain nombre de juxtapositions, de séquences, de recréer aussi une histoire qui se tient, dans le sens où on est jusqu'au bout tenu par les enjeux narratifs, et que c'était quand même un peu un enjeu aussi de pouvoir recréer un truc qui se tienne. J'ai pas eu de séquences qui m'ont marqué de manière très importante comme le premier, où je pense qu'on a tous été un peu touchés par toute la question de l'oubli,
la mort de Bing Bong,
exactement, ce jouet, voilà, je voulais pas, hein. Voilà, c'était vraiment très dur. Il y a pas de séquence aussi dure ou de séquence aussi marquante, parce que je pense que peut-être que il y a peut-être moins d'innocence aussi dans le récit. Mais dans l'ensemble, il y a un certain nombre de séquences qui fonctionnent plutôt bien, et ils ont des idées visuellement même, c'est-à-dire qu'ils font appel par exemple à un moment à un vrai faux Dora l'exploratrice,
ça,
qui m'a beaucoup fait rire, et qui visuellement s'incarne par vraiment une palette de couleurs, une palette graphique différente, quoi. Donc ça marche vraiment bien, donc il y a de l'audace, et puis dans l'ensemble je trouve qu'aussi le taf du doublage, moi je l'ai vu en VF, c'est pas un choix, mais en fait globalement je me rends compte que je vais quand même souvent voir les films d'animation en VF pour voir un peu l'état des castings français, et là globalement c'est plutôt pas mal. Gilles Lelouch m'a beaucoup fait rire.
Un assez gros casting. Hein.
Ouais, c'est un gros casting. Il y a Pierre Niney, avec Alex Arcopoulos, qui d'ailleurs est
dans les deux versions.
Ouais. Voilà, en VO et VF. Et Dorothée Pousseau, m'a-t-on dit, pour Anxiété, le personnage principal du coup de ce deuxième film. Donc un mélange de doubleur et d'acteur un peu côté. Et je trouve que dans l'ensemble, tout marche assez bien. Donc en fait, on passe un très bon moment. Encore une fois, la grande force du film, c'est qu'il n'y avait rien à faire. Sa grande faiblesse, c'est qu'en fait, il est dans l'ombre du premier, je pense. Mais quand on voit les derniers, là, je les ai sous les yeux, Soul, Luca, Alerte Rouge, Buzz l'éclair, Élémentaire, peut-être que Pixar, enfin Disney Pixar, puisque c'est plus logique de les appeler comme ça, peut-être qu'ils peuvent se mettre à faire des bonnes suites plutôt qu'à défaut de faire des bons films originaux, quoi. Voilà.
Surtout qu'Élémentaire est un peu une forme de remake un peu raté,
effectivement,
de Vice Versa. Yuri, est-ce que tu partages l'enthousiasme de Valentin?
Oui, et moi en fait pareil, comment dire, quand ils ont annoncé la suite, j'ai un peu fait les gros yeux en disant mais oh là là, encore une suite, vraiment un film qui pour moi, je trouve, effectivement en appelle une mais n'en a pas besoin, c'est-à-dire que justement la beauté du premier c'est son concept, et c'est le fait de dire bah voilà, maintenant il y a plus de nuances dans les émotions, et hop, ça continue. Donc en effet, on voit un peu le même film que le premier, il repose à peu près sur les mêmes mécaniques. Maintenant, c'est aussi, enfin c'est exactement ce que tu as dit, dans le sens où c'est ce à quoi on s'attend, du coup c'est cool parce que on se dit ah bah en fait ils ont fait exactement les bons choix. Et en même temps, on se dit, bon, bah, c'est pas non plus le truc plus original que j'ai vu parce que j'ai vu le premier. Néanmoins, il y a quand même des trouvailles. Tu citais le personnage en 2D, le personnage de jeu vidéo qui a hurlé de rire aussi, qui est une espèce de. Mais pareil, où ils vont jouer en fait sur une espèce de mouvement de jeu vidéo très pixelisé, très PlayStation 2 en fait.
Avec des Tekken un peu.
Ouais, voilà, et qui est, et en fait, donc, sur lequel elle a un crush. Et sur lequel la gamine a un crush, et du coup mais qu'elle cache dans un endroit de son esprit où en fait elle veut pas se l'avouer, où elle we are the suppressed memories, dit on est les mémoires enfouies. Donc ça c'est assez marrant, et la manière dont à un moment ils vont représenter le flot d'émotions, le flot de souvenirs qui va remonter à la surface à la lumière d'une crise d'angoisse en réalité, c'est assez malin aussi, je trouve, que du coup de faire de angoisse le personnage à la fois un très bon méchant, puisque il veut exactement la même chose que le personnage principal. Il veut le bien de la gamine, et en même temps qu'il va faire absolument n'importe quoi et user de stratagèmes tout à fait rédhibitoires pour y arriver. Donc en fait, on a plein de belles choses dans ce film, et pour moi c'est vraiment une suite réussie dans ce sens-là, quoi. C'est-à-dire que ça respecte complètement l'univers, ça respecte complètement son public, et moi je suis complètement ok que Pixar fasse ça. Maintenant, je trouve que c'est un peu un aveu d'échec, dans le sens de on avait des bonnes idées il y a 10 ans.
On est renvoyé au constat que ce film était extraordinaire il y a 10 ans.
Ouais, voilà.
Et qu'en fait on était soufflé par la créativité de ce studio à ce moment-là, et que là du coup
on se dit ah mais c'est cool, ça me rappelle, voilà. En fait, il y a un personnage dans le film qui est la nostalgie,
ouais.
Et en fait c'est exactement le problème, c'est que alors c'est un personnage très rigolo dans le film qui fait un petit caméo, mais on en est à ressentir cette émotion-là, l'émotion de la nostalgie, et comme dans le film on aimerait qu'elle ne pointe pas le bout de son nez, et pourtant elle est bien là quand on regarde ce film.
Contrairement au Toy Story par exemple, à part le Buzz l'éclair qui ont quand même réussi à faire 3 films qui chacun avait vraiment leur identité. 4 effectivement.
Et il y en a un 5 qui en développement.
C'est peut-être la franchise qui fonctionne. On va s'intéresser à une autre franchise qui pour le coup se répète un petit peu, c'est Thor du temps d'Olivier Assayas, son nouveau film. On est dans l'univers Olivier Assayas. Nouveau chapitre.
C'est beau ce silence. D'habitude, il y a toujours des avions, des voitures dans le lointain. Là, rien.
C'est quand même une situation assez étrange, hein, d'être confiné là où on a grandi.
C'est quoi ?
C'est mes chaussettes.
L'été arrive et t'as besoin de chaussettes ?
Tout à fait. Trop de souvenirs.
Et oui, Alban, nous aussi, l'été arrive et on a besoin de chaussettes. Hors du temps, c'est le nouveau film d'Olivier Assayas qui raconte globalement son confinement dans sa maison de famille.
Non, le problème, c'est que ça raconte pas que ça.
Pas que ça.
Alors, effectivement, le cadre du film, c'est que ça se passe au tout début du confinement avec Vincent McKen qui joue en fait Olivier Assayas, Nora Mzaoui qui joue la copine de son frère qui est jouée par Micha Lescaut qu'on avait vu dans Les Amandiers. Mm-hmm. Et la copine de Vincent McKen, ils sont tous les quatre. Et c'est des moments, des petites scénettes en fait de leur confinement, qui est entrecoupé de plans naturalistes avec la voix d'Olivier Assayas qui raconte son enfance. Parce que ça parle en gros du vrai confinement de la vie d'Olivier Assayas dans sa maison d'enfance, dans laquelle il a vraiment passé son enfance. Et c'est une catastrophe. Et en fait, c'est le pitch, il peut s'arrêter là. Non, mais c'est pas que c'est un naufrage, c'est que. C'est pas qu'il s'est planté, c'est que en fait le film ressemble à ce qu'il voulait faire, et c'est ça le problème, c'est que c'est un film ultra narcissique, ultra. Mais ça va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à entendre des gens qui disent des phrases qui n'existent pas dans la vraie vie, qui parlent comme dans des bouquins, qui parlent en alexandrin, hein, quasiment, tu vois, qui parlent comme des poèmes et qui parlent que d'auteurs connus ou la plupart du temps inconnus, qui se projettent dans leurs œuvres à travers leurs phrases, à travers leurs paroles. Ça parle de Hockney tout le temps, ça parle de Renoir. Ça parle de trucs mais inconnus parce qu'il a une interview sur France Culture, et le problème c'est qu'il n'y a pas de dérision, il y a un tout petit peu d'autodérision parce que ça peut pas passer en gros, mais en fait il dit oui c'est vrai, on est un peu intelligent, qu'est-ce qu'on se fait, mais c'est vrai qu'on est un peu chiant parfois, mais qu'est-ce qu'on est intelligent. Et en fait le film est construit comme ça, et c'est insupportable de vanité et de, je sais pas, honnêtement tout est prolongement narcissique, c'est-à-dire que...
Je parlais de colère dans mon introduction au sujet d'Hors du temps.
En fait, il ne peut pas choisir un bouquin dans sa bibliothèque sans que le bouquin se reflète sur lui. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais tout est un problème. Il porte sa culture ou la manière de lire des livres comme, je sais pas, comme des rappeurs porteraient des bling-bling, tu vois. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais tout est dans la manière d'être, dans la manière d'exister, dans la manière de se concevoir ou d'être au monde. Et c'est d'une vanité totale, et c'est insupportable, vraiment, c'est insupportable. Ensuite, je ne veux même pas parler de cinéma parce qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que le film, en termes de cinéma, n'a rien à nous dire, complètement. C'est un cinéma qui parle à personne, peut-être à lui-même. Et les moments de voix off où il raconte son enfance, c'est à la fois ridicule et à la fois ça donne le ton au film, et ça explique un petit peu son message. Il se prend un peu pour une sorte de retour sur les terres un peu proustienne, mais franchement, c'est honnêtement un des pires films que j'ai vu cette année. C'est peut-être un des pires films que j'ai vu depuis que je suis arrivé à la radio. C'est scandaleux, et ça dure 1h45.
Et t'as vécu le confinement avec nous.
Et j'ai vécu le confinement avec vous, et franchement, et même toutes les blagues sur confinement, on avait vu À la joie de Jérôme Bonnel, qui est une histoire d'amour de confinement, qui marquait en fait des petits traits sur les choses dont on avait nous-mêmes oublié sur le confinement. Et dans ce cas-là, c'était intéressant. Là, c'est des blagues pourries où tu le vois frotter les courses ou mettre un masque. Enfin, c'est franchement éclaté au sol. Et voilà, il y a rien d'autre à en dire. Je laisse le procès continuer avec Laurent.
Oui, j'allais dire, Laurent, toi, Assayas qui se prend pour Proust, ça ressemble globalement à ce que t'appelles l'enfer absolu.
C'est obscène. Je trouve ça obscène, je trouve ça indécent. moi, de faire ce film. Oui, c'est l'enfer absolu, mais c'est presque que pour commencer qu'on dit ça. C'est vraiment parce que évidemment il y a rien. Vincent McCain fait n'importe quoi. On sent qu'il essaye un peu de brouiller les pistes parce que en fait Vincent McCain ressemble à son frère Mishka Assayas, qui est aussi un critique rock un peu connu. Alors mais du coup qui joue quand même le rôle d'Olivia Assayas. Bon, bref, rien ne va. Et c'est surtout, je me demande à quel moment ces gens se sont dit que vraiment on s'intéressait à ce qui se passait dans leur tête. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc de bascule dans ce type qui fait du cinéma et qui se dit tiens, je vais raconter mon confinement, ça va être bien, ça va faire plaisir aux gens, ça va être intéressant pour les gens de savoir que je fais des vannes sur le Didu Genji, quoi, tu vois, ou genre des trucs.
Et que
j'ai été touché par la peinture de Bonnard parce que j'ai lu des livres d'art.
Oui, parce
quand
qu'en
j'étais
plus,
enfant.
Il se compare à Bonnard, à Hockney,
enfin,
à Renoir.
Tu vois,
Il y a
un truc complètement insensé, c'est-à-dire vraiment de voilà, ah regarde, on joue du tennis dans la vieille maison des voisins, abandonnée, à moitié abandonnée, voilà, en faisant des blagues sur d'obscurs auteurs asiatiques. Enfin, il y a vraiment un truc genre d'une gêne et d'une violence vraiment très extrême. Je trouve ça horrible en fait de recevoir un truc comme ça. C'est-à-dire que le pire du pire, c'est que moi je fais partie de cette équipe-là en fait. Moi je suis le genre de connard qui pourrait jouer au tennis en faisant des vannes sur le Didu Genji ou presque.
Ouais, mais tu t'en rendrais compte.
C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi je pourrais être ce genre de bourgeois scandaleux, mais en même temps, il y a un truc que je trouve hyper violent de t'asséner ça en complet premier degré totalement assumer ce truc de je vais me mettre à nu dans un film qui va raconter ma relation avec mon frère et mes 400 coups dans les années 80 avec des stars de l'époque que tout le monde a oublié. Il y a vraiment des trucs horriblement gênant, quoi. Ouais.
Et qu'en plus, son enfance, j'imagine qu'elle est tout ce qu'il y a de plus.
Bah, en fait,
pas tragique.
Je pense que ça, c'est un autre problème du film. Je voulais revenir après ta chronique, mais vas-y.
En fait, je pense que son enfance, dans le fond, elle est pas sans intérêt. Il a une histoire familiale qui est intéressante. C'est des immigrés hongrois. Okay. Il y a tout un truc. Ses parents divorçaient quand il était jeune. Il continue à avoir. Ça avait l'air d'être des gens un peu excentriques, en tout cas, compte tenu de ce qu'on peut imaginer de deux. Mais bon, en fait, c'est pas du tout montré. C'est pas du tout de ça qu'il parle, en fait. C'est pas du tout ça qu'il cherche à nous dire. Ce qu'il cherche à dire, c'est genre quand même on a connu un peu les années 80, c'était marrant, et puis j'ai eu une éducation, tu vois, et il y a un truc en fait très très violent et d'un nombrilisme inacceptable. C'est-à-dire que et encore une fois tout ça est affreusement mal porté. C'est-à-dire que Vincent McCain fait n'importe quoi, on sent qu'il essaye d'imiter un peu Olivier Assayas, qui est déjà un peu une caricature de lui-même quand on l'entend lire ses textes pendant les plans fixes sur la nature là. C'est d'une gêne totale. Enfin, je veux dire, c'est pas seulement mauvais. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de bon cinéma en France, en fait. Enfin, c'est à cause de ce genre de film qu'on c'est difficile de faire des bons films.
Vous savez ce qui me réjouit, c'est qu'on en parler deux fois parce qu'il sera dans le flop de l'année.
Il est déjà dans le flop.
Je pense qu'il sera dans le flop.
Envie d'aller
de
voir cette catastrophe.
C'est-à-dire que c'est vraiment.
Vas-y, Manon, Souken.
C'est vraiment. Je vais citer une autre critique d'un autre film. Donc ça n'a aucun sens, mais je sais plus qui l'avait fait d'ailleurs, mais c'est sur le film Doute, qui avait.
Peut-être resitue quand même ce qu'est Doute, parce que je pense que
c'est un obscur film avec Christophe Barbier et Benjamin Biolay sur la politique.
Barbier.
Non, avec Christophe Barbier.
Mais je l'ai vu.
C'est par la femme de Christophe Barbier. Moi, je l'ai vu six fois. Je pense que je suis un spécialiste français de ce film. C'est un des nanars les plus extrêmes que j'ai jamais vu. Bref, un jour, peut-être qu'on en parlera plus longuement. Et c'était un critique qui avait dit que c'était le raw obscène d'une intelligentsia avariée. Et je vois pas comment je pourrais dire mieux ce film. C'est vraiment un raw obscène d'une intelligentsia avariée.
Hors sol.
Horrible. Enfin, vraiment, je comprends pas comment est-ce qu'on peut laisser des gens de faire ça sans les arrêter, quoi. Donc, tribunal, prison, peine de mort.
Moi, je suis pour la peine de mort, là.
Dans des cas comme ça, oui.
Et surtout qu'ils nous ont encore mis Vincent McCain avec une des plus belles actrices du moment, non ?
Nin
c'est la fille d'Inès de la Fraisse en jouer.
D'accord, Nin Durso, je crois qu'elle s'appelle.
Ouais, c'est ça. Tous les films, Vincent McCain se tape les plus belles meufs du cinéma français et ça me
déface. Donc un hors du temps, hors sol qu'on vous décourage absolument de voir, à moins que vous ayez un kink sur les raw obscènes. Et on va maintenant vous parler de Maria, le film de Jessica Palud qui raconte l'histoire de Maria Schneider sur le tournage du Dernier Tango à Paris.
Je voudrais être actrice.
Vous vous appelez comment?
Maria. Maria Schneider.
Vous avez quel âge, Maria?
19.
Vous seriez la deuxième tête d'affiche. Et puis Marlon Brando m'a dit oui.
Rando.
Bernardo, Monsieur Bertolucci.
Il y a une scène très crue.
Manon Anna Maria Bartholomei est donc Maria Schneider dans ce Maria.
Yes, c'est un biopic donc sur Maria Schneider et comment elle a accédé très vite à la notoriété, on va dire pas grâce, mais à cause du dernier tango à Paris de Bertolucci et d'une scène, une scène de sodomie désormais très connue. Et voilà, elle n'est pas préparée ni à la gloire, ni ensuite au scandale qui va en découler. Et en fait, c'est inspiré d'un roman, d'un ouvrage qui s'appelle « Tu t'appelais Maria Schneider » de Vanessa Schneider, qui en fait était la cousine de Maria Schneider. Je trouve que l'opération de ce film est assez louable parce que je pense que je sais pas si le grand public a véritablement connaît véritablement Maria Schneider, son histoire, tout ça.
Ça a été un peu raconté au moment de sa mort il y a quelques années, mais je pense qu'effectivement c'est peut-être donc, pas le grand public.
Voilà, en tout cas au moins on ça nous permet de découvrir cette histoire, et pour ceux qui la connaissaient, ça permet aussi d'en faire une relecture qui est un peu hors du fantasme, parce que je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de cette histoire. Ça fait forcément un écho à l'actualité et à tout, au destin de ces nombreuses jeunes actrices qui ont été brisées par des réalisateurs. Je pense que c'est pas du tout opportuniste de la part de la réalisatrice, parce que c'est un concours de circonstances, on sait combien de temps ça prend de monter un film, mais forcément voilà, ça trouve un certain écho. Le film, il s'appelle Maria, il s'appelle pas Tango ou Dernier Tango, donc en fait ça se résume pas qu'à ce tournage, et comme l'histoire l'a un peu résumé elle à ça, ça raconte toute sa vie, ça raconte l'avant, ça raconte aussi surtout l'après et toute la descente aux enfers, et du coup le film prend le temps quand même d'installer pas mal de choses, notamment la relation entre elle et Marlon Brando, qui est à la base une relation plutôt jolie, il y a de l'admiration, il y a de la bienveillance et tout, et du coup qui rend cette trahison de sa part et de la part de Bertolucci encore plus difficile à regarder pour nous.
Oui, parce qu'on l'a pas dit, tu parlais de la scène de sodomie, ce qui est
voilà,
très
qui est
grave,
en fait orchestrée dans son dos. Voilà, elle n'était pas du tout
et non simulée, alors qu'elle pensait, elle pensait pas que ce
un
serait
viol
pas simulé,
en plateau,
donc en fait c'est un viol en plateau. Voilà.
Et donc cette fameuse scène, elle est reproduite dans le film. Moi, je m'interroge toujours un peu sur la pertinence de reproduire telle quelle, voilà, ce genre de violence très frontalement, sans interroger grand-chose. Mais là, ce que ça permet quand même, c'est qu'elle fait une sorte de dézoom, et en fait, on voit toute l'équipe autour qui a assisté à ça, qui est complètement muette, qui n'a rien dit. Et voilà, et ça permet aussi de prendre la mesure de l'importance que joue le rôle des équipes autour qui ne disent rien. Il y a des propos qui sont extrêmement modernes, donc du coup, elle, après ça, elle a remis plein de choses en question, et elle tient des propos parfois, ça se passe dans les années 80, et elle questionne les réalisateurs qui lui demandent de se foutre à poil systématiquement pendant les tournages et tout, et il y a vraiment c'est presque anachronique tellement elle était en fait super moderne. Anna Maria Bartholomei est vraiment, je trouve, vraiment, enfin c'est clairement le point fort de ce film, je la trouve vraiment formidable dans tous les états, je trouve qu'elle est hyper convaincante. Je pense qu'en fait on n'a pas forcément de vision claire de Maria Schneider, de sa personnalité, même peut-être de son jeu, et du coup je pense qu'elle a pris plein de liberté pour l'incarner, et c'est ce qui fait qu'à mon avis elle est convaincante, beaucoup plus que si elle avait essayé de coller je pense à elle. Voilà, après ceci étant dit, c'est un biopic classique qui est un biopic classique, voilà, qui vaut complètement pour son sujet, qui est vraiment pas le pire de ce qu'on a fait en termes de biopic, mais qui n'est pas non plus, qui sort pas non plus du lot, voilà.
Est-ce que tu rejoins Manon sur cette analyse, Solal?
Ouais, assez. Je te rejoins assez. En fait, je dirais même, en fait, moi, j'ai été un peu frustré en fait en sortant du film parce que j'ai trouvé que malheureusement la mise en scène restait assez superficielle en fait vis-à-vis de cette histoire. Qu'il y avait, en fait, il m'a vraiment manqué d'un point de vue ou de choix de point de vue dans ce film en fait. Et j'ai trouvé que c'était assez illustratif. Alors, j'ai pas lu le roman du tout, mais en voyant le film, j'ai vraiment eu l'impression qu'on venait illustrer en fait des scènes de la vie de Maria Schneider, mais qu'il n'y avait pas nécessairement en fait de lien directeur de psychologie, qu'on n'essayait pas un peu d'entrer dans sa tête ou de ce qui se passait. Et du coup, j'ai trouvé qu'on était quand même assez loin en tant que spectateur du paradoxalement du personnage. Alors que le jeu d'Anna Maria Bartholomei est hyper convaincant, celui de Matt Dillon aussi. Je trouvais que tous les comédiens étaient très impressionnants dans leurs prestations. Mais c'est vraiment un choix de mise en scène assez distant, et le fait que les séquences soient un peu éparses et qu'il y ait beaucoup de coupes au noir et qu'on passe à la suite et qu'il n'y ait pas vraiment de lien en fait entre les différents temps, qu'on brise un peu les liens de cause à effet entre ce qui lui arrive, sa relation avec les réalisateurs et ce qui se passe dans sa vie, c'est en fait tout ça est un peu déstructuré. Et du coup, je trouve que bah, bizarrement, alors que les comédiens sont super, bah, ça manque complètement d'incarnation. Et donc, ça, j'ai été un peu frustré à ce niveau-là. Et je trouve que, je sais pas, ça avait pas, par exemple, même si la comparaison est, tient pas, mais j'ai vu des biopics relativement récemment qui voilà, je sais pas, par exemple, si je prends Rocketman, par exemple. Complètement au pif, mais il y avait un
sur
truc
Elton John.
Sur Elton John, oui, où le sujet c'est moins Elton John que sa relation à la drogue, et on rentre à l'intérieur complètement. Là, on est tellement en dehors, et en plus, j'ai trouvé qu'il y avait des scènes qui auraient pu presque, il y a plein de petites scènes très explicatives avec des dialogues très explicatifs qui auraient pu être coupées, qui auraient, je pense, en fait, à un moment le discours est tellement expliqué par moment que du coup, ça dilue en fait son effet. Je trouve, et que...
Ouais. Je pense que c'est parce qu'elle a voulu raconter toute sa vie, et du coup, forcément, ça crée une absence de point de vue...
Ça manque, ça fait un peu film Wikipédia, comme on les appelle.
Totalement. Mais voilà, je pense que c'est parce qu'elle voulait recontextualiser et la sortir juste de Le Dernier Tango à Paris.
Oui, mais du coup, c'est-à-dire que l'âme, en faisant ça, c'est-à-dire que justement, c'est là où le film se prend un petit peu les pieds dans son propre sujet, c'est que du coup, finalement, en fait, le film, en voulant raconter plus que cet épisode de sa vie, se met à teindre le reste de sa vie de ce viol-là, en fait. C'est-à-dire que tout est raconté à partir de là, et en même temps, ça manque effectivement d'autres choses à des moments pour essayer de cerner le personnage, de rentrer dans une émotion, même dans une forme d'identification ou de... Voilà, moi, je suis resté... assez loin en fait, et je peux même filer la comparaison avec l'événement dont Anna Bartolomei était le rôle principal et qui était adapté du roman d'Annie Ernaux. Donc je veux dire, c'est quand même deux films qui sont assez proches par le choix de cette comédienne et même par les sujets abordés.
Ce que je me disais, qu'elle commence à avoir une filmographie assez cohérente.
Assez cohérente, c'est une comédienne.
Mais voilà, et pour le coup, l'événement, pour moi, c'est le contre-exemple parfait, quoi. C'est-à-dire qu'on a complètement un personnage qui n'est pas effectivement celui d'Annie Ernaux, mais avec lequel on est en résonance totale parce que justement, on a, c'est-à-dire que le film est construit à la fois en termes de montage et de mise en scène de la caméra pour justement rentrer un peu dans la tête du personnage. Et là, se trouve qu'en tout cas dans Maria, c'est beaucoup moins
tu restes trop extérieur.
Le cas.
C'est plat, ouais.
Bon, eh bien Maria, un film qui vaut pour son sujet et pour l'interprétation donc, de Anna Maria Bartolomei en Maria Schneider, mais qui ne dépasse malheureusement pas le cadre du biopic classique. On termine ce soir avec Becoming Karl Lagerfeld, le Kaiser de la mode auquel Disney accorde une série.
Qu'est-ce qu'il fout là, le teuton ? Quand t'as pas de talent, tu viens pomper celui des autres.
Bonjour, monsieur Lagerfeld.
Garde.
Monsieur.
Avez-vous un style, monsieur Lagerfeld?
Je pense que vous êtes un génie et que vous allez devenir le plus grand couturier du monde.
Laurent, tu es notre star de la mode, notre modèle à tous dans le sens mannequin.
En tout cas, j'ai la même corpulence que Karl Lagerfeld à une certaine époque.
On dira pas laquelle.
Toujours. Non, on laissera ça en suspens. Becoming Karl Lagerfeld, c'est une série française. Assez incroyable d'ailleurs.
Diffusée sur Disney+.
Je m'attendais pas à ça. Diffusée sur Disney+, sous le label Star, qui raconte l'histoire du coup de Karl Lagerfeld et plus précisément en fait sa relation avec Jacques de Bacher, qui est sa muse, qui a été son amoureux platonique
ouais.
Entre la fin des années 60 et la fin des années 80 globalement. Alors on n'a pas encore tous les épisodes, mais là on s'arrête à la fin des années 70, dans le début des années 80 même déjà. Ouais. Et donc ça va raconter du coup l'ascension de Karl Lagerfeld que début et globalement une espèce comme il le dit lui-même, un mercenaire du prêt-à-porter qui est styliste pour plein de maisons, avant de devenir l'icône et la figure qu'il a fini par devenir. C'est une série assez surprenante à pas mal d'égards. Donc il y a des choses que je trouve, on va dire, très réussies. Et tout d'abord, je trouve que ça cherche à faire un portrait psychologique de Karl Lagerfeld qui est très intéressant et qui, je trouve, est très solide parce que on a tous une image en fait un peu de qui est Karl Lagerfeld. On l'a tous vu, c'est une vraie icône. Tout le monde sait qu'il est il est pas avare en sortie un peu scandaleuse et qu'il est globalement odieux d'une manière générale, enfin en tout cas la manière dont on le présente. Et là je trouve qu'on l'humanise beaucoup et ça permet d'essayer de comprendre un peu l'énigme qu'est ce type qui finalement en effet a beaucoup menti sur qui il était, d'où il venait, racontait beaucoup de mythos, était dans des trucs de construction finalement de son personnage, et comment en fait cette recherche à la fois de perfection pour lui-même et de création de ce personnage le détruit peu à peu et en tout cas l'empêche de vivre une vie normale globalement. Et je trouve que toute cette espèce de descente un peu aux enfers autour de ça est faite de manière très très touchante et très très subtile, et ça donne en fait un vrai intérêt à toute la série en dehors de la représentation du monde de la mode de l'époque et de ses turpitudes et de ses personnages tous plus détestables ou moins que les uns que les autres, genre casse dédié à Pierre Berger qui est quand même représenté comme je pense une des
comme
pires
il est hein, je
comme
pense
il est interprété
par Alex Lutz, si je dis pas de bêtises,
qui est très bien interprété par Alex Lutz.
Et on n'a pas dit d'ailleurs que c'est Daniel Brühl qui faisait
c'est Daniel Brühl en effet qui est vraiment un personnage absolument odieux qui je pense l'était aussi, en tout cas la réputation qu'il en avait. Il y a en fait je trouve aussi le seul vrai problème, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez finalement tragique de voir ce qu'on fait une série française comme ça, dans le sens où on sent que bon, y a quand même beaucoup d'argent, il y a un travail exceptionnel je trouve fait sur la déco, sur les costumes, sur toute la recréation en fait de cette époque. Ça va très très loin dans les détails, on sent quand même qu'il y a des gens derrière qui ont vraiment taffé et pour qui ont pris du plaisir et qui avaient une certaine passion en fait pour tout ça. Malheureusement je trouve que pour les autres points positifs, je trouve que les comédiens sont presque tous très bons. Petit bémol quand même pour le comédien qui interprète Yves Saint Laurent, qui je trouve quand même assez mauvais, mais en dehors de ça
Arnaud Valois,
ouais, en dehors de ça c'est un peu compliqué. Bon après peut-être que le rôle est difficile aussi, mais en dehors de ça franchement c'est plutôt un sans faute. Le seul truc qui va pas, c'est qu'il y a des espèces de marques et de passages de vulgarité presque extrême à certains moments dans la série, ce qui est le comble quand on veut faire un film sur justement la quintessence du style et en tout cas le bon goût français de l'avant-garde de la mode parisienne des années 70. Il y a quand même vraiment des moments très très gênants où on voit Karl Lagerfeld pleurer en dansant, enfin il y a des trucs vraiment très films français qui sont lourd et le tout porté par une réalisation franchement je dirais plus que plate, parfois assez moche, et c'est fou en fait de voir qu'on arrive à réussir un peu le superflu mais pas du tout l'essentiel parfois, alors que dans le fond il y a vraiment une belle matière et que ça reste quand même une série intéressante, mais juste il y a des moments très laids quoi que je trouve un peu dommage.
Alban, toi aussi tu trouves que c'est une belle série plombée par des moments très laids?
Les moments très laids, disons que j'attends pas qu'une série soit forcément parfaite, notamment à ce niveau-là. Effectivement, il y a des moments qui sont, je trouve, un peu de mauvais goût, même dans le traitement des couleurs. Je trouve que parfois c'est un peu trop flashy. En tout cas, essayer de reconnaître les années 70-80 de manière un petit peu trop caricaturale, on va dire. Ensuite, moi je suis d'accord avec Laurent, c'est une très bonne série parce que la manière dont est traité le sujet Karl Lagerfeld, parce que c'est a priori un sujet en lui-même, est fait de manière très fine et très intéressante. Aussi parce que c'est très très bien casté, donc comment s'appelle-t-il déjà
Daniel
Brühl qui le joue et qui est magnifique, et même tous les autres rôles, même Agnès Jaoui, celui qui joue Jacques de Bachère, j'ai oublié son
qui est super, qui a un rôle très difficile d'ailleurs.
Je et voilà, c'est vraiment super. Alors, moi, le seul truc que je reproche à la série, parce que en fait, je trouve ça frustrant, parce que j'ai envie d'en savoir plus, etc., c'est qu'elle a un problème d'angle, c'est-à-dire qu'elle parle de plein de sujets. Et parfois, ça manque un peu sur tous les sujets qu'elle essaye de traiter. C'est-à-dire que soit elle essaye de traiter de sa relation avec Jacques de Bachère, dans ce cas-là, c'est super parce qu'il y a des moments très très émouvants.
Théodore Pellerin,
un acteur québécois, je crois. Et dans ce cas-là, t'as envie d'être que avec eux et savoir ce qui se passe, comment ça se fait que cette relation soit si complexe. Soit tu traites de sa relation passée avec Yves Saint-Laurent et de la manière dont ils sont construits ensemble. Soit tu traites de sa relation à lui-même, sa trajectoire artistique dans la mode. Moi, je savais pas du tout, par exemple, qu'il avait commencé par le prêt-à-porter. Enfin, j'y connaissais rien. C'est super intéressant. Et en fait, quand la série commence, il a quand même déjà du bagage chez Fendi, chez Chloé, chez plein d'autres marques. Et en fait, il est quand même un petit peu présenté comme un outsider, ce qui n'est pas forcément le mec qui roule en Rolls rôle, c'est il est déjà un petit peu connu en fait dans le monde de la mode. Et voilà, je trouve que le sujet, enfin la série s'éparpille un petit peu alors qu'on a des sujets passionnants qui sont quand même bien esquissés, mais je trouve qu'il manque de c'est un peu incomplet, un peu inabouti par moment, et je trouve ça dommage parce que franchement, c'est une belle surprise. Moi, quand je me suis mis le premier épisode, je m'attendais pas du tout à ça. Et on a envie de... C'est pas du tout une série que je déconseille, bien au contraire. Et ça donne envie, en fait, de se plonger dans ces années-là et dans la relation qu'entretenait notamment la mode avec l'art, avec l'industrie, avec le business. Je trouve ça super intéressant à ce niveau-là aussi.
Et bien, on vous encourage donc à découvrir ce Becoming. Karl Lagerfeld, vous restez surtout sur Radio Campus Paris. C'est déjà la fin. On remercie Suzanne d'avoir réalisé l'émission. Et maintenant, c'est l'heure de désaccorder. Bonne soirée.